le commentaire politique de Patrick Clouet.
Patrick, bonjour, bon lundi à toi.
Bon matin, je suis en train de texter à ma sœur.
Bon,
bonjour.
Bonjour, ma sœur.
Que tu connais.
Ben oui, Liliane, la belle Liliane. Donc, ben salut Liliane, termine ça, puis je vais chanter.
C'est fait, c'est bon. Okay.
Ben écoute, parlons de M. Poilievre et du gain en capital. On lui demande, vous, qu'auriez-vous fait, M. Poilievre? Et si jamais vous arrivez au pouvoir, qu'offrez-vous? Est-ce que vous allez revirer l'affaire de bord?
Oui. À date, lui et son équipe sont silencieux, puis ma recommandation serait dis pas un mot. Pourquoi? On veut savoir quand. Non. Écoute.
Mais qui ne dit mot qu'on sent?
Je dirais que ce qui est fort intéressant, c'est que c'est la population, c'est les citoyens qui en parlent. Tu sais, l'Association canadienne médicale dit qu'ils vont, plusieurs de leurs médecins vont prendre leur retraite, les médecins de famille vont prendre leur retraite probablement beaucoup plus rapidement. Puis dans certaines provinces, les médecins se faisaient dire, écoute, on n'a pas plus d'argent à vous payer, donc incorporez-vous, créez des sociétés, puis vous pouvez aller chercher plus de revenus comme ça. Alors, ils ont suivi cette façon de faire, puis là, on leur change la méthode de travail, leur méthode de rémunération. Alors, tu sais, t'attends les
mais là, on parle de gains en capital, on parle d'acquisitions qui sont faites.
Non, c'est parce
qu'on peut revendre par la suite.
Oui, mais quand on est travailleurs autonomes, on s'incorpore pour réduire notre taux de taxation.
Certains, pas tout le monde.
Pour un médecin, par exemple, ou un avocat, ben, surtout un médecin qui va louer des locaux, acheter de l'équipement, avoir du staff, payer. Alors, tu crées une mini-entreprise, puis à ce moment-là, on te dit c'est comme ça que tu peux majorer ton revenu parce qu'on ne peut pas te payer plus à l'acte ou la façon les médecins sont rémunérés dans les différentes provinces. Et puis là, ben, on change les règles du jeu. Alors, donc, tu as beaucoup d'entités, des gens qui sont, tu sais, des gens de la classe moyenne qui ont acheté un bloc appartement, un sixplex et tout. Alors,
on en connaît.
Et donc, M. Poilievre n'a pas besoin d'aller au front pour défendre ça. Ça se défend tout seul dans la population. Alors, il n'y a pas besoin.
Il aurait pu y aller, non? Il aurait pu dire.
Non, parce que
tout le monde est attaqué sur.
Stratégiquement, là, je veux dire, il n'y a pas à se prononcer. Écoute, juste pour comprendre que c'est un peu difficile dans l'arène, dans le caucus libéral, ils ont présenté le projet de loi pour implémenter le budget et il y a les dispositions pour le gain de capital n'est pas inclus. Bon, ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont avoir un autre projet de loi qui, lui, va incorporer cette disposition-là et peut-être d'autres réformes économiques. Mais, tu sais, moi, je pense qu'ils sont sages à laisser ce dossier-là parce que tu as encore la taxe carbone, tu as le gain en capital. C'est toutes les réformes où ça coûte plus cher et quand tu veux avoir, tu proposes un gouvernement où tu veux réduire la fonction publique, réduire les coûts de l'État, réduire la dette, ben ça tombe à l'intérieur du grand message. J'ai pas besoin d'aller spécifiquement là-dessus.
OK, donc si toi tu le conseillais, tu disais garde ça simple.
Garde ça simple. Il y a assez de voix qui s'élèvent ailleurs dans la population.
On lui a reproché quand même là, quand il est sorti la semaine dernière, quand il est parti avec les autres députés à sa suite. Les gens ont dit, mais il mène par 21 points. Pourquoi il fait ça? Qui il veut convaincre? Sinon, c'est sa base qui va triper, puis personne d'autre par la suite va faire tant minutes.
Oui, effectivement, il y a eu du grabuge. À la Chambre des communes.
D'un côté, il ne fait rien, puis de l'autre, il fait quelque chose de dérangeant quand même.
Alors là, il faut quand même remettre. On ne parle plus de gain en capital. On parle maintenant du dossier des opioïdes.
Oui, je sais que c'est une autre affaire.
C'est un autre monde.
Mais il aurait pu rester là pour en débattre, mais.
Mais là, je pense qu'il faut mettre en contexte le président de la Chambre, M. Fergus, qui a été maladroit, je pense, dans sa gestion cette journée-là. Ce qu'on doit mettre en contraste, c'est que présentement, en Colombie-Britannique, on avait décriminalisé beaucoup des drogues dures en espace public. Même chose qu'ils ont fait dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis, c'est à la côte ouest. Et dans les deux cas, ça s'est avéré problématique et les deux juridictions ont décidé de renverser la décriminalisation. Donc, la ville a demandé à la province de la Colombie-Britannique de demander à Ottawa de recriminaliser l'utilisation des drogues dures dans les espaces publics. Et là, M. Poilievre posait la question.
C'est un réel fléau à Vancouver, entre autres.
Et M. Poilievre posait la question à M. Trudeau, et M. Trudeau répondait avec du rien. Il disait, on a eu cette demande de la Colombie-Britannique de revoir, et on a de mettre en place un projet pilote. Et là, soudainement, il ne répondait pas à ce qui se passe maintenant. Et effectivement, la Colombie-Britannique a demandé de recriminaliser, mais Trudeau le disait pas ça. Il l'a dit seulement le surlendemain après le grabuge. Ouais. Alors, sur le coup, juste avant, la députée Rachel Thomas avait été expulsée de la Chambre par le président. Et donc, il était vraiment aux aguets. Et là, M. Trudeau a traité M. Poilievre d'extrémiste. Alors, M. Poilievre servirait de barre et dit, mais c'est un projet de loi cinglé, wacko, par un gouvernement mais cinglé.
Le mot wacko? Oui. C'est dérangeant, puis c'est un mot, puis il y a bien des gens qui
disent... Il n'était pas à l'index, il a déjà été utilisé avant.
C'est un mot, oui, mais de dire qu'un premier ministre est wacko, puis que son gouvernement est wacko, dans une période où, aux États-Unis, c'est vraiment un terme très, très, très employé par les Trumpistes, entre autres, le mot wacko, il y a quelque chose qui dérange un peu là-dedans.
Mais
cette association que peut-être il ne veut pas faire, mais que le mot dans ma tête, forcément, je fais.
Mais encore là, il y a... Tu poses une question, le premier ministre ne répond pas. Le premier ministre l'accuse... Laisse-moi finir. Le premier ministre se fait traite M. Poilievre d'extrémiste. Le président de la Chambre ne lui demande pas de retirer ses paroles. Ou navigue là-dedans. L'autre dit wacko, cinglé en français. Puis il lui demande de retirer. Alors, je pense pas qu'il ait été équitable nécessairement dans le traitement des deux. Puis à un moment donné, il faut naviguer là-dedans. Là. Puis il faut que tu aies le respect des deux bords. Et... tu sais, j'entendais des commentateurs dire « Oui, mais M. Fergus a été choisi par tous les... » Le président de la Chambre. « A été choisi par tous les membres. » Non, on s'entend, là, le Bloc et les conservateurs n'avaient pas redonné leur confiance lorsqu'il a fait un vidéo partisan, nettement partisan. Tu sais, son jupon dépasse, là. Alors, il n'y a pas combiné. Puis c'est drôle, tu vas me dire que j'étais un petit peu, c'est peut-être simpliste, mais moi, je m'en souvenir que quand ma mère, André Champagne, était président, vice-président de la Chambre, président plus ou moins par intérim, quand le président Fraser avait eu une opération cœur ouvert, puis à l'époque, on n'avait pas besoin de réélire un président, mais il y aurait pu avoir, parce que c'était la fin du gouvernement là, du terme en 93, du terme Harper, Mulroney, pardon. Et là, Mulroney fait quelque chose, ma mère se lève et elle lui demande de retirer ses mots. Puis, ce qu'il a fait. Et là, l'autre côté de la chambre dit, ben, écoute, si elle a le courage de demander à son patron, le chef de son parti de se lever, de se retirer les paroles, ben, elle sera probablement équitable pour les deux, donc gardons-la jusqu'à la fin.
Si on lit un signal, ce faisant.
Et quand on lit en sort la dernière journée du Parlement, on l'a félicité pour le travail qu'elle avait fait. Donc, revenons à M. Fergus. Oui. M. Fergus a des problèmes. Je peux comprendre qu'il était à fleur de peau parce qu'il avait déjà expulsé quelqu'un, mais je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus malin en demandant aux deux de se calmer et de se retirer, et non pas en pointant Poilievre seulement là-dessus. Puis, bon, ben, donc, ils sont tous levés, ils sont tous partis. Mais, soyons francs, la Colombie-Britannique avait demandé de revoir les dispositions de criminaliser. M. Trudeau ne répondait pas ça en chambre la première journée. Puis il l'a dit néanmoins, oui, OK, je comprends que oui, on voudrait, ils veulent revoir la disposition. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la ville, ces demandes-là pour décriminaliser les drogues dures en espace public viennent des municipalités, pas des provinces.
Okay.
Et donc, c'était la ville de Vancouver qui avait demandé ça initialement.
Ouais.
Et maintenant, tu as aussi Toronto et Montréal a fait la demande en 2021. Toronto, on est rendu là. La province est contre. Mais c'est une demande de la ville. Puis là, ils ne voulaient pas faire ça à Toronto, de décriminaliser, vu l'expérience négative qu'il y a eu en Colombie-Britannique. Alors, c'est pour ça que c'était un sujet vraiment serré.
Au-delà de tout ça, c'est la force des mots. Il faut faire attention.
Je suis tout à fait
M. Poilievre, si vous nous écoutez, faites attention aux mots que vous choisissez et à la façon. S'il avait été un petit peu plus rusé, il aurait pu leur virer de bord puis le confronter dans ses, comment dire, dans ses refus et dans sa façon de répondre ou de ne pas répondre à M. Trudeau. Là, c'est le mot wacko qui est arrivé deux fois.
Ouais.
Moi, ce que je reçois comme message, c'est que c'est quelqu'un qui a les fils se touchent, c'est pas chic.
écoute,
c'est une gorgée de café.
Je t'entends, puis effectivement, il a probablement, tu sais, il a pas été, comment je peux dire, agile là-dedans, mais M. Trudeau est en mode attaque. 20 ouais. points en arrière, 21 ouais. points en arrière, il essaie d'être en combatif, il essaie de... Puis tu, quand tu te fais traiter d'extrémiste, tu t'associes avec des extrémistes, puis tu mets extrémiste à tous les mots, ben, à un moment donné, ouais. Les fils se touchent des deux bords. Je pense que effectivement, le lendemain, ça a été beaucoup plus calme.
Il est revenu, puis il tout s'est replacé.
Si, oui.
Bon,
mais ben, peut-être que ça prenait cet excès de...
Peut-être qu'il fallait sortir ça de son système.
Oui,
hey, on s'arrête un petit peu. On va parler de des districts qui s'ajoutent
du côté carte de électorale à Longueuil.
La carte électorale.
Le bonheur, avec Charles Gaudreau.
Bon, oui, c'est ça, je suis allé, on parlait de la au spectacle de la Société chorale de Saint-Lambert, ici à la Co-cathédrale. C'était vraiment fabuleux samedi dernier.
Bon, bravo.
Oui, le Requiem de
Forêt.
Il y a
un bon
forêt.
Son dans la Co-cathédrale.
Ah, c'est beau, c'est captivant. Et il y avait Mme Mendez qui était juste devant nous.
Ah,
oui, ouais, avec... c'est ça que je voulais te dire.
Okay,
je t'ai pas dit finalement. Qui était là juste devant nous, qui semblait émerveillée. Elle prenait le programme régulièrement, elle encerclait des choses qu'elle aimait.
Ah, wow.
C'est beau, quelqu'un de passionné.
Ben oui, tout à fait.
Voilà, je salue ça. On parle des nouveaux districts à Longueuil.
Et oui, alors la...
Trois.
La carte électorale... Je ne savais pas, mais il semblerait qu'il y ait une disposition Élections Québec qui dit que quand une ville a plus de 250 000 citoyens, il doit y avoir 18 districts électoraux.
OK.
Alors là, ils sont 15. On se souviendra que sous l'administration Saint-Hilaire, on avait ramené ça de 26 à 15.
Mm-hmm.
Et Greenfield Park avait perdu à l'époque deux districts, de 3 à 1. Et c'est drôle, moi je suis plate parce que j'étais là quand ils ont annoncé ça. Et j'ai un bon souvenir de l'événement parce qu'ils avaient, il y avait un je veux pas dire un lobbyiste, un représentant d'une firme de communication et le greffier de la ville qui avait présenté à l'époque le plan pour aller de 26 à 15.
Mm-hmm.
Puis il y avait deux choses qui m'étaient venues à l'esprit. Cette journée-là, on a posé la question, c'est-tu le début de la fin des arrondissements puis on va fusionner tout le monde, tout est ensemble. Et le greffier avait dit essentiellement, pas pour l'instant. Alors, comment ça, pas pour l'instant? C'est-tu votre plan d'effacer les arrondissements et faire une grande ville? C'est un petit peu maladroit de sa part. Et effectivement, aujourd'hui, on a encore les arrondissements. Et deuxième chose, pourquoi est-ce que Greenfield Park a maintenant, étant un district, ont plus de voteurs que les autres districts?
OK.
Donc, ça veut dire qu'un vote pour Greenfield Park coûte moins cher qu'un vote dans les autres districts. Alors, puis à l'époque, on dit, ah oui, mais la croissance dans les autres région de Saint-Hubert fera en sorte que ça va tout s'égaliser. Mais là, nous voici, petit effet sonore de Fast Forward 2024.
Tu l'as bien fait d'ailleurs.
Alors, donc maintenant, ce qu'on me raconte, c'est qu'avec 18, le Vieux-Longueuil en aura 10 circonscriptions. Saint-Hubert et Greenfield Park 8 pour le 18. Alors, le Vieux-Longueuil aura toujours la majorité à l'intérieur de la ville. Puis moi, j'ai toujours le souvenir, je sais pas si tu viens du débat des feux à ciel ouvert,
ouais.
Où le Vieux-Longueuil avait, sous l'administration Parent, avait imposé leur volonté sur les autres arrondissements qui, eux, ont des réalités beaucoup plus différentes.
Alors, je pense entre autres Saint-Hubert, où il y a c'est en rase campagne à certains endroits.
C'est pas ultra-urbain. Alors là, moi, j'ai toujours peur que les bons penseurs de Vieux-Longueuil imposent leur volonté parce qu'ils ont nettement... Alors, c'est mieux que 9 à 6, ce qu'on m'a fait remarquer, puis maintenant, c'est 10 à 8. Donc, il y en a juste un qui peut basculer du Vieux-Longueuil pour donner un équilibre et forcer mairesse à briser l'égalité. Alors, c'est bon, puis on m'a aussi fait remarquer que dans le cas des feux ouverts, ils ont passé une loi qui, dans les Vieux-Longueuil, ont une réglementation, puis Greenfield Park et Saint-Hubert, ils ont une autre, donc oui,
on a adapté l'affaire, on a été pragmatique.
Alors, donc, la nouvelle administration, contrairement à l'ancienne de Mme Parent, l'administration Fournier, a refait ça. Alors, maintenant, oui, effectivement, maintenant, il y a juste un vote de différence entre les deux qui pourrait ramener un équilibre. Je suis toujours surpris quand il y a un chiffron, mais en même temps, c'est 10-18, c'est la façon de revoir...
Tranché, c'est ça le chiffre.
Oui, mais tu sais, moi je pense qu'on est surgouverné de toute façon. Alors, honnêtement, je crois qu'à Québec, là, ils veulent peut-être aller jusqu'à 150 députés.
OK.
Moi, non.
C'est peut-être pas l'idée du siècle, effectivement.
Moi, je pense qu'on est surgouverné. Moi, j'aime bien le plan d'Ontario, qui a la même carte au fédéral qu'au provincial, au Québec. Donc, avoir 118 au lieu de 125, je pense que... OK, tu peux rajouter plus de bureaux de comté, mais je crois qu'on a trop d'élus en tant que tels. On est surgouverné, surtout quand on se regarde à des grandes villes comme New York, où ils ont des millions, puis ils ont moins de
Il y a matière à réflexion.
Oui, tout à fait.
Puis s'engager en politique, il y a le plus de monde possible, c'est toujours bien aussi.
Déjà, il y a des gens qui ont des... c'est toxique présentement pour les élus. Là. On voit de plus en plus de maires, mairesses qui quittent, de députés même.
T'as
parce
raison,
que les réseaux sociaux deviennent plus réseaux sociaux, ils deviennent verbales, confrontationnels. Oui. Pis...
réseaux antisociaux.
Oui, non, je suis là-dessus. Il faut quand même donner le respect de la tâche.
On en parlera la semaine prochaine.
Oui, j'empiète sur tes... Oui.
C'est nouvelle, Henri Paul. Le pauvre Henri Paul qui est en train de pleurer, visiblement. Là. On se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne semaine à tous.